Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui.
Bonjour, ici Chloé Caron, présidente fondatrice d'O2 Coaching. Bienvenue à mon podcast Propulser votre équipe, saison 2, épisode 2, avec Annie Rouleau, femme entrepreneur, courageuse et persévérante. Vous allez le voir, je m'entretiens avec Annie de vision. Puis je sais que plusieurs organisations, peut-être même votre équipe, avaient une vision. Un énoncé de vision. Ma question pour vous, combien d'organisations, d'équipes vous connaissez créent avec leur vision les bons comportements? Puis quand je parle de bons comportements, je parle de decision making, de la possibilité de prendre les bonnes décisions au bon niveau par les bonnes personnes. Et moi, je sais parce qu'à chaque fois que je travaille dans une organisation, on travaille dans de grosses organisations avec des équipes nombreuses, donc on a un nombre significatif de réponses. À chaque fois, j'ai toujours la même réponse à la question suivante. Combien des questions qui viennent vers vous, leader, auraient pu être répondues, traitées, répondues par la personne qui vous pose la question ou quelqu'un dans l'équipe, un collègue à cette personne-là? Je n'ai jamais de réponse inférieure à 50 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins une question sur deux, un dossier sur deux, pourrait être traité par quelqu'un d'autre que vous, voire même un niveau supérieur en termes de hiérarchie organisationnelle. Ça crée quoi? Ça crée des inefficacités, bien évidemment. Mais pire encore, imaginez l'impact sur l'engagement, le développement, la responsabilisation des gens. Et je vous ai parlé de mon mouvement dans le premier épisode, et c'est justement pour ça qu'on a créé le mouvement, pour nous permettre de réaliser que comme organisation, nous avons le pouvoir comme leader, peu importe le niveau où on se trouve, nous avons le pouvoir d'arrêter ça et d'encourager, de redonner confiance à nos gens, de prendre des décisions, d'aller de l'avant, d'être créatif, d'être innovant. Et donc, avec un énoncé de contribution stratégique unique, moi, c'est ce que j'ai remarqué, permet la plus grande clarté sur qui doit opérer à quel niveau et qui doit prendre les bonnes décisions au bon endroit. Et donc, pour ça, je vous laisse vous inspirer d'Annie Rouleau, qui est au cœur de sa vision et donc de son succès. Bonne écoute. Annie, bienvenue.
Oh, merci Chloé, ça me fait tellement plaisir.
Ben moi aussi, puis comme je m'apprêtais à te dire avant qu'on commence à enregistrer que je trouvais que ton podcast arrivait à merveille parce que ton titre, puis là, je l'ai juste en anglais, là, vous m'excuserez, mais c'est « Resiliency for Sustainable Economy », la résilience pour une économie durable. Puis je trouvais que c'était tellement pertinent parce que l'économie, c'est chacun des individus qui la compose aussi. Puis en ce moment, on est tellement occupé avec tout ce qui s'est passé comme changement que je trouvais que ton timing avec nous était parfait.
J'ai bien hâte de commencer la discussion.
Parfait, parce que dans tous les changements qu'on a vécu, puis on en a vécu un paquet dans la dernière année, tous autant que nous sommes, toi, tu as fait des choix comme CEO puis leader de ton organisation. Tu as décidé d'être clair sur là où tu faisais la différence dans ta business.
Mm-hmm. Oui.
Comment tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce qui était difficile aussi dans ce choix-là?
Je vais t'avouer, Chloé, ça n'a pas été un choix difficile parce que dès le départ de l'entreprise, j'ai décidé de fonder une entreprise où j'aurais vraiment le sentiment de faire une différence. Donc, le sentiment de développer une entreprise avec un impact positif. Donc, déjà d'emblée, c'était mon désir de faire ça. Je voulais redéfinir la notion de la propreté. Donc, pour moi, déjà dans mon modèle d'affaires, j'avais fait un choix de développer une entreprise. Oui, c'est des produits nettoyants, des produits corporels qui sont naturels, qui sont biodégradables, qui sont exclusivement sans fragrance. Mais en tant que compagnie de produits nettoyants et corporels, je fais partie d'une industrie qui crée probablement un des plus gros fléaux environnementaux, la bouteille de plastique à usage unique. Donc, je ne pouvais pas me fermer les yeux, il fallait que je fasse partie de la solution. Alors déjà, tous les produits que je me suis engagée à mettre sur le marché, je l'ai fait en me disant, Annie, tu vas développer une entreprise où tu vas pouvoir réduire l'empreinte de plastique, revoir le packaging. Donc, toute la business, tout le modèle d'affaires était basé sur ça dès le début. Donc, c'est des choix après ça que j'ai fait, mais toujours en gardant cette mission-là. Parce que ma mission, c'est pas de devenir le leader mondial de liquide à vaisselle. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas sexy. Ma mission, c'est vraiment de contribuer à réduire notre empreinte de plastique. Donc, ça, c'est la mission. La vision, comment on va le faire? Bien, il faut changer les habitudes des consommateurs. Puis, sur quelle base? Bien, des valeurs de transparence, d'inclusion socialement puis environnementalement responsables. C'est que là, en 10 secondes, je t'ai donné ma mission, ma vision, mes valeurs. Mais quand c'est clair, quand ça le mérite d'être clair, concis, bien, après ça, on peut faire le cheminement là-dessus.
Mais tellement! Puis dans le livre, tu l'as peut-être vu, on parle de contribution stratégique unique qui est exactement le penchant, là, si tu veux, de ce que tu viens de dire, de ta vision, puis de là où tu veux te concentrer. Puis ton point est tellement bon. Quand c'est clair là, sur mm-hmm. quoi tu veux te concentrer, ça te permet de faire des choix. Tu m'expliquais en pré-entrevue que ton modèle d'affaires puis la façon dont tu t'équipes en termes d'équipe, là, si je peux me permettre, c'est justement avec ça en tête que tu puisses te concentrer, toi, sur là où tu amènes, toi, de la valeur dans l'organisation. Qu'est-ce que tu penses?
Absolument, mais aussi, je pense que quand ton modèle d'affaires est basé sur des considérations sociétales et environnementales, je pense que dès l'embauche, tu recherches des candidats qui finalement vont aussi contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que je ne peux pas le faire tout seul. Tu sais, je peux pas. Aujourd'hui, on est rendu 12. Si ce n'est pas un peu dans l'ADN de la compagnie ou dans la marque employeur, j'y arriverai pas. C'est qu'il faut le partir. Il faut que ça soit clair dans les processus d'affaires, mais autant dans ton évaluation lors de l'embauche que dans tes conversations avec tes employés. Donc, je pense que oui, c'est ma vision des affaires, c'est mon leadership qui fait en sorte qu'on peut grandir en gardant toujours comment ta chaîne de valeur, c'est ça. T'sais. Par contre, je pense que cette infusion-là à toute l'équipe est primordiale pour y arriver, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, à grandir, on ne peut pas le faire tout seul. L'équipe est essentielle. Et ça part à l'embauche, ça part dès lors de leur mentionner à l'intégration d'un nouvel employé. Bien, cette intégration-là, pour moi, dure 2 semaines, même pour une petite entreprise, parce que je trouve ça primordial. Il faut que cette intégration-là, qu'on aille la mission, qu'on aille la vision, la raison d'être de l'entreprise, sur quelle valeur. Comme ça, les nouveaux employés peuvent participer puis contribuer pas mal plus rapidement dans la mission de l'entreprise. Ça, j'y crois, là, c'est très clair dans ma tête.
Puis c'est clair qu'à travers ça, ça devient plus facile, il me semble, en t'écoutant, pour chacun de tes 12 membres d'équipe de jouer son rôle pleinement, parce que là, il ou elle comprend où tu t'en vas avec la business. Et donc, dire, OK, voici comment moi je contribue.
Puis, tu sais, à un moment donné, quand t'en parles et que c'est clair et que ça fait partie des processus, parce qu'on a quand même une certification qui s'appelle B Corp et ça fait partie de nos processus. Ma directrice de marketing, c'est une directrice marketing responsable. Je veux dire, ça fait partie de nos titres, ça fait partie de nos processus. Et puis après ça, c'est que les gens, finalement, eux-mêmes viennent te voir avec des solutions qui vont finalement contribuer à notre mission. Et finalement, cette contagion-là, je peux l'appeler comme ça, bien, on est contagieux chez nos autres parties prenantes, nos fournisseurs, nos clients. T'sais, fait que finalement, le fait que l'équipe contribue, que l'équipe soit bien informée, que ça fasse partie des processus, ça fait partie de notre travail quotidien, mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est que les fournisseurs prennent le téléphone, nous appellent. Eh bien là, finalement, j'ai une boîte, là, je pourrais te l'offrir sans colle. T'es-tu intéressé? C'est eux qui me font évoluer parce qu'ils savent que je suis réceptive à toutes sortes d'innovations qui va justement contribuer à des, je sais pas, à des objectifs plus environnementaux ou même sociétal, tu sais. J'ai quelqu'un, un fournisseur, qui m'a appelé et dit « Écoute, on pourrait rapatrier une machine au Québec. » Bien, tu es la première personne à qui il faut que tu en parles parce qu'ils savent que je veux rapatrier le plus de fournisseurs au Québec parce qu'aujourd'hui, 90 % de mes fournisseurs sont à l'intérieur d'un kilométrage, d'un rayon de 500 km. Pour moi, ça fait partie de mes objectifs.
Et donc là, tu te fais influencer par ton environnement. Définitivement que tu as influencé tes fournisseurs et ainsi de suite. Et est-ce que c'est là pour toi le lien avec le fait que la résilience que tu as comme gestionnaire, comme leader, ça influence la durabilité de l'économie? C'est-tu dans cette perspective-là que tu vois ça?
100 Chloé, 100. Je crois qu'une économie qui est résiliente, qui est forte, qui est durable, c'est à la base parce qu'elle est locale. Si on a des gens locaux avec qui on travaille, qu'on le développe, qu'on remet notre argent dans notre propre économie, on va être plus fort. C'est définitivement, on est plus résilient parce que même si ça fait 8 ans que je travaille de cette façon-là, je n'ai jamais été mis à l'épreuve. Avec la pandémie, là, on a tous été mis à l'épreuve. Et donc, j'ai vu en première ligne cet impact-là de ce choix-là d'il y a 8 ans, comment ça a pris tout son sens en 2020. Justement parce que j'ai pu être extrêmement résiliente. Mes fournisseurs étaient à Belle-Oeil, étaient à Rivière-des-Prairies, Sainte-Anne-des-Plaines. Ils étaient à des endroits où je pouvais continuer à travailler puis à développer finalement le prochain produit. Tu sais, parce que là, on s'est dit, oh, il va y avoir un manque là, mais voici comment on peut combler. Parce que c'est disponible, c'est sur notre territoire. Fait que pour moi, j'ai trouvé que c'était une façon d'être résilient. Parce que là, il y a un vrai échange de se dire, ah, ben ça, ça marche pas, voici ce qu'on peut faire ensemble pour que ça marche.
Pour que ça marche, exact. Puis d'avoir accès à tellement de ressources dans un court rayon, c'est ce qui te permet d'opérer rapidement. Et en même temps, tu as eu l'opportunité, je pense, avec la pandémie, d'avoir de nouvelles opportunités, justement, que tu n'avais pas préalablement et que tu as pu saisir dans un contexte qui était celui et qui est encore celui qu'on connaît.
Puis absolument, parce que je veux dire, on n'en cache pas, on est dans une crise sanitaire, puis je vends des produits sanitaires. Donc, de toute évidence, les produits étaient en demande, mais si j'avais fait le choix d'avoir des produits importés, ou j'aurais pas pu saisir ces opportunités-là, mais là, je n'ai jamais manqué d'aucun produit parce que j'étais ici au Québec, puis parce que j'ai appelé François, puis j'ai appelé Jean-Sébastien en leur disant « Hey, on a une belle opportunité, Bell Canada veut commander 12 000 savons à main pour tous leurs employés. » Puis la réponse est « Ok, parfait, on fait ça pour quand? Dans une semaine? Parfait. » Donc, j'ai pu saisir ces opportunités-là qui étaient, oui, spécifiques à la pandémie, mais en quelque part, peu importe si c'est spécifique à la pandémie, ça va avoir des répercussions à long terme. Et le produit se retrouve entre les mains de quelqu'un.
Comment on fait? Parce que c'est sûr que le mouvement sur la durabilité puis l'environnement, la préoccupation, elle n'est pas récente. De plus en plus, les entreprises, les individus s'en vont dans cette direction-là. Mais comment, quand on est un leader d'entreprise qui voulons emboîter soit le pas à commencer ou aller encore plus loin, tu dirais quoi comme conseil ou comme perspective par rapport à ça pour les encourager à aller plus loin là-dedans?
Bien, je pense que dès qu'on parlait à une certaine époque, et puis c'est de moins en moins vrai, qu'on parlait d'environnement dans une même phrase que d'économie, ça ne fonctionnait pas. Parce que les gens comme moi qui parlent d'engagement sociétal et d'engagement environnemental, on était quasiment perçus comme un OBNL. C'est extrêmement tabou finalement de parler de ça dans un contexte d'entreprise privée. Mais là, les choses changent. La pandémie a fait accélérer énormément le niveau des gestions plus humaines, plus locales. Le gouvernement a lancé haut et fort des mandats d'achat local, des mandats aux entrepreneurs, aux consommateurs de porter une attention particulière. Donc là, on est en train de changer beaucoup de choses dans la façon de gérer nos entreprises et de réaliser que c'est cohérent de parler d'environnement, de société et d'entreprise, qu'on n'est plus obligé de le séparer. Puis en plus de ça, bon, avant pandémie, on avait quand même déposé nos états financiers pour être reconnus à travers les 400 entreprises avec le plus haut taux de croissance dans le Globe and Mail, puis dans les leaders de croissance au Québec. Ce que ça veut dire, c'est que malgré mes engagements sociétaux et environnementaux, je suis arrivée à dégager une croissance importante qui a été reconnue. Et ça, là, c'est la plus belle reconnaissance. Pas pour moi, parce que je n'ai jamais douté que finalement, que j'aurais pas une entreprise qui est profitable, mais qui finalement démontre aux entreprises qu'on est capable de jumeler les deux, qu'on est capable de parler d'environnement puis d'économie, puis d'être profitable. Parce que c'est toujours la grosse question, tu sais. On met-tu à risque la profitabilité? Est-ce qu'on la décale? Peut-être. Ça, je serais prête à dire que oui, j'ai décalé probablement la profitabilité, la rentabilité de peut-être quelques mois, quelques années. Mais pour être profitable à la fin, au même niveau, j'avoue que je referais la même chose aujourd'hui.
Sans faire de mauvais jeu de mots sur la durée.
Exactement. C'est beaucoup plus durable.
C'est plus durable de faire ça. Pour toi, ça a été ça.
Exactement.
On arrive au segment de notre entretien où je pose les trois mêmes questions à tous nos leaders qui sont à ce micro-là. La première, ça a été quoi ton plus grand défi comme leader?
Mon plus grand défi, comme c'est sûr qu'on en a beaucoup, mais moi, je pense que le plus grand défi à mon égard, ça a été de financer la compagnie. Je le sais que c'est peut-être probablement un des défis les plus communs chez l'entrepreneur, mais pour moi, à 50 ans de j'avais 40 ans à l'époque, j'avais les deux jeunes enfants à la maison. Et je n'ai pu commencer la compagnie seulement que par du love money. Donc, ça veut dire ma maison, mes REER, mon frère, mon père. Tu sais, j'ai cumulé un petit montant d'argent qui a fait en sorte que j'ai pu partir la compagnie. Et par la suite, justement, parce que j'avais une chaîne de valeur qui est extrêmement forte et que je ne voulais pas déroger, que tous les matins que je me levais, finalement, que mes convictions étaient mises à l'épreuve parce que le monde financier n'y croyait pas. De financer des entreprises qui pouvaient avoir d'autres objectifs que le profit. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile, mais je n'ai pas été capable de changer. Je me suis dit, c'est mes convictions, elles sont vraies, elles sont profondes, puis il faut que je sois persévérante. Alors, j'ai été persévérante. Ça a pris 8 ans. 8 ans pour être financée correctement par les banques. Et vraiment, c'est extraordinaire parce que là, aujourd'hui, évidemment, les banquiers le savent, qu'on est capable de financer des entreprises. Puis on est en train de changer parce qu'on est en train de leur démontrer que c'est possible. Donc, tant mieux s'il y a un autre entrepreneur qui vient avec une envie de changer des choses puis d'être un impact positif.
Et c'est qu'on dit souvent que c'est le deuxième million qui est plus facile à faire parce qu'une fois que tu as de l'argent, bien là, c'est plus facile d'avoir de l'argent puis d'avoir du financement. Puis c'est ce que tu dis en ce moment.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi, oui. Là, une fois que la profitabilité est établie, il n'y en a pas de problème. Mais il faut quand même que tous les entrepreneurs se rendent là. Pas toujours évident, c'est ça.
Et là, comme outil, tu as parlé de la persévérance. C'est quoi tes autres outils pour vraiment passer à travers ce défi-là dans les 8 dernières années?
C'est ça. Je pense que j'ai mentionné la persévérance, mais les convictions, parce que je trouve que d'avoir des convictions, d'avoir plus que le goût de vendre un produit, mais de développer une autre façon de travailler, un autre modèle d'entreprise. Pour moi, ça a été cette envie-là de contribuer dans mon industrie. Donc oui, je veux bâtir une entreprise, puis oui, il faut faire de l'argent au bout de la ligne parce que c'est comme ça qu'on va faire du développement, on va faire de la recherche, qu'on va payer nos employés avec des meilleurs salaires. Donc, je suis tout à fait consciente de ça, mais je pense... Pour moi, ces convictions-là vont au-delà de mon entreprise, elles vont dans mon industrie, puis je veux contribuer à améliorer, à changer les standards de l'industrie.
Ça me semble que quand tu as une contribution stratégique unique, claire et inspirante, parce que c'est vraiment inspirant là, ce que tu nous dis, bien là, après ça, on est prêt à passer à travers vents et marais pour y arriver.
Puis je vais vous dire, on dirait que les gens le reconnaissent. Et ils veulent contribuer parce qu'aujourd'hui, là, que ce soit les employés ou les fonds, ils veulent contribuer à des projets qui sont au-delà du produit. ils veulent participer. Puis tu vas voir que oui, on est capable de traverser contre 20 parce qu'on a beaucoup de monde qui rame dans le même sens. Puis pas juste des employés.
Puis cette inspiration-là fait ta job à ta place de conviction. Donc, autrement dit, par cette conviction-là, t'engages puis t'inspires les autres à te suivre.
C'est vrai, l'engagement est là.
T'es devenu quel leader par ces défis-là? Qu'est-ce que t'as appris? Mais surtout, c'est quoi l'identité de leader après 10 ans d'entreprise comme ça?
Ben, c'est sûr que j'ai quand même eu la chance, moi, de grandir dans une famille où j'avais 2 entrepreneurs. J'avais ma mère comme entrepreneur et mon père comme entrepreneur avec 2 styles d'entrepreneurship bien différents. Et aujourd'hui, je les ai regardés grandir, puis j'ai un peu fait mon choix de qui je voulais. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon leadership est beaucoup plus humain. C'est un leadership que j'ai envie de rentrer au bureau tous les matins avec des papillons dans le ventre. Puis pour moi, c'est extrêmement important d'être bien dans l'entreprise, d'être bien dans ma façon de l'idée. J'ai souvent des gens qui vont voir, oh, ben là, lui, il n'a pas d'allure. Puis j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Je sais pas, je suis probablement un leader. On me considère sûrement trop soft. Mais c'est le genre de leadership que j'ai envie de vivre et de faire et de surtout faire vivre aux autres de mon équipe. Un leader avec une vision claire, un leader justement, je pense que tu l'as le terme, Chloé, qui est engageant, mais définitivement plus humain.
Alors, clairement que tu es très inspirante comme femme, d'affaires, puis assurément très inspirante comme leader. Je te remercie, Annie, pour le temps que tu as passé avec nous. C'était inspirant. Merci.
Oh ben merci, Chloé.
J'espère que vous avez été tout aussi inspiré que moi parce qu'avec Annie, on a abordé justement l'importance d'avoir une vision claire. Et moi, ce que je vais vous offrir comme outil, puis vous pouvez aller sur mon site Internet parce qu'il y a plusieurs blogs là-dessus ou dans mon livre « Propulser votre équipe », c'est l'outil de la contribution stratégique unique. Puis ça, vous pouvez le faire individuellement, mais dans ce cas-ci, je vous invite à le faire avec votre équipe, de définir ensemble la contribution stratégique unique de votre équipe. Et c'est tellement puissant, et chacun des mots est très important parce que c'est la contribution que vous cherchez à faire, l'impact, autrement dit, que vous cherchez à avoir au sein de la plus grande organisation, au sein de vos clients. Stratégique parce que c'est le plus haut niveau stratégique, ce que seul vous, comme organisation, comme équipe, devez avoir comme contribution et unique, donc seul vous. Et cet outil-là, je vous le dis, c'est fabuleux, c'est d'une efficacité redoutable parce qu'à chaque fois que vous faites cet exercice-là, vous allez voir que les comportements des gens vont changer. Je m'explique. Vous allez voir les gens se poser les questions suivantes. Est-ce que j'opère au bon niveau? Est-ce que je suis assez élevé? Est-ce que j'ai élevé mon hélicoptère assez haut par rapport au niveau où moi je dois opérer? Est-ce que je dois aller à ce meeting-là ou c'est quelqu'un d'autre dans mon équipe qui doit y aller ou on n'a même pas besoin d'être là? Les gens qui sont en place sont les bonnes personnes, peuvent prendre les décisions, peuvent avancer. Est-ce que je développe assez mon équipe pour que eux et elles puissent élever leur hélicoptère et donc prendre de plus en plus de responsabilités puis avoir un plus grand impact? J'ai pas dit faire plus, j'ai dit prendre de plus grandes responsabilités. Et c'est donc ces comportements-là que vous allez voir quand vous allez faire votre contribution stratégique unique d'équipe. Allez sur le site web et entre-temps, je vous invite à être inspiré et inspirant.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Propulser votre équipe ». Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement « Empower Your Team » et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.